Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. On est très heureux évidemment de vous retrouver pour un nouveau week-end. Les GG, c'est l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast ou les trois en même temps. Au sommaire des grandes gueules du sport dans quelques instants, la une des GG, les petites phrases, les polémiques s'accumulent autour du PSG depuis le début de la saison. Ces polémiques peuvent-elles ruiner la saison des Parisiens? 10h30, la punchline des GG signée Wendy Renard sur l'affaire Amraoui Diallo. Cette histoire détruit-elle l'image du foot féminin? Et puis 10h, les GG passeront la seconde autour de l'altercation sur le court jeudi entre Corentin Moutet et Adrian Andreev, une image extrêmement rare dans le monde du tennis. Faut-il pardonner les pétages de plomb? Ce sera notre question. Sachez que Corentin Moutet sera notre invité en studio pour revenir sur cette bagarre. La bagarre.
Bon, maintenant, il y a des hommes qui veulent se battre là, entre eux, là, et qui sont pas les hommes du tout. Ils sont pas capables de se mettre la tête à tête, comme ça, là, en coup de poing à main nue. Vous êtes pas les hommes. Les hommes, c'est la castagnette.
La castagnette. Les grandes gueules du sport ce matin, une grande gueule qui, comme Joe Biden, il est tellement liquide, on dirait une flaque. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Merci, ça fait plaisir. Je ne sais pas pourquoi je viens faire cette émission, pourquoi je me lave tous les samedis, dimanche matin, pour voir ta sale gueule qui me fait insulter. Non, mais sans déconner. Sans
blaguer, dis donc. Christophe, je t'ai bien remonté là.
Non, rien du tout. Je vais te jeter un ordinateur.
C'est comment les rillettes dès le matin?
Ah, c'est pas mal là. Heureusement, l'équipe de la matinale avait laissé un petit quelque chose là quand même, parce que le petit déjeuner,
c'est pas rillettes, on y va.
Ah, bah ouais, nickel. Okay. Nickel.
Très bien.
Petite bière et puis vous, c'est parti.
Bravo. À consommer évidemment. Avec modération, non, je suis désolé, on est toujours obligé de le dire. Une grande gueule qui, comme Joe Biden, sa place est plus avec un peignoir qu'avec un costard. David Douillet, salut David.
Ça va, t'es en forme là, hein?
Bah oui.
Profites-en,
tu n'es pas là, ouais.
Profites-en.
Avec moi, vas-y. Tu es malin, mais avec David, tu ferais moins le malin. Hein.
Continue, t'es sur la bonne voie.
Très heureux de te retrouver, en tout cas, mon cher
moi
David,
aussi.
Parce que je suis très courageux. Et puis une grande gueule qui, comme Joe Biden, sucre parfois les fraises. Denis Charvet, salut
David.
Denis.
C'est incroyable. Non, mais là, t'es pas.
Oui, parce qu'il a regardé Pamela Anderson.
Non, mais c'est voilà. Oui, mais quand il était jeune,
tu commences très très mal ce matin. Très très mal. J'ai envoyé David sur le tatami là.
C'est le procès, c'est ça. Attendez, vous êtes tous en train de vous plaindre là?
Oui.
Comment vous
oui,
savez ce que je fais avec les contrats, hein?
Je sais où tu peux te les mettre, tes contrats. Nous, on parle directement avec toi, on parle avec Dieu le maître, oui. Pas avec un de ces valets.
Attendez,
là,
hein.
Non, mais attends, qu'est-ce que tu crois?
Je suis un sous-fifre.
Oui, exactement.
Absolument. Vous avez raison.
Tu es un pasteur de plat, comme on dit.
Je vous propose quand même d'écouter la dernière présentation parce que celle-ci devrait vous plaire.
Ouais,
vous
êtes prêts? Allez, okay.
Une grande gueule qui, comme Joe Biden, a aussi connu une Jackie. Jackie, t'es où? Jackie. Mais lui, elle est toujours accompagnée de Michel. Stéphane Brun, salut Stéphane.
Salut, JC. Franchement, moi, j'apprécie beaucoup tes intros.
Elle est grave.
C'est une belle présentation.
Double prime pour toi, mon cher Stéphane. Merci de ton soutien indéfectible. On va débuter cette émission qui m'a l'air bien partie quand même, avec cette citation de Confucius qui a dit un jour: une petite impatience ruine un grand projet.
La une des grandes gueules du sport.
Eh bien, bonsoir à tous.
Il y a toujours eu des moments comme ça où il y a eu des moments des fois un peu plus froids, des fois un peu plus chauds.
Là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense.
Oui, plus intime, dirais-je même.
Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
Et là, nous reconnaissons sa bonne humeur habituelle.
Et oui, sa jovialité, tant connue.
J'ai beaucoup plus de liberté ici. Je peux me balader, aller dans l'espace, demander les ballons. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, donc c'est différent.
Cela, je le précise, cela ne nous regarde pas.
Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi, on s'est disputés, Christophe, il ne rentrera plus dans un vestiaire ni en France ni en Europe.
L'antenne, oui, il faut qu'on rentre.
Oui, voilà. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas.
Et merci à Julie Dereau pour cette production de qualité. C'est vrai que la vie est rarement un long fleuve tranquille au Paris Saint-Germain, malgré deux semaines de trêve internationale. Les polémiques s'accumulent à Paris après les bisbilles, Neymar, Mbappé, l'affaire Nasser El Khelaifi sur un entrepreneur emprisonné au Qatar. Voici le clash Christophe Galtier contre Julien Fournier, l'ex-directeur du football de Nice, a balancé à moitié cette semaine sur son entraîneur, c'était dans l'after, sur RMC, déclarant qu'il ne pouvait pas, vous l'avez entendu, révéler totalement les raisons de leur discorde. Sinon, Christophe Galtier ne pourrait plus entrer dans un vestiaire, ni en France, ni en Europe. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Les polémiques peuvent-elles ruiner la saison du PSG? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Non.
David Douillet.
Ouais, ça peut.
Stéphane Brun.
Non.
Denis Charvet.
Non.
Du oui, du non, avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport qui suit de près le Paris Saint-Germain cette saison, Arthur Perrault. Salut Arthur.
Salut les grandes gueules, bonjour
Arthur,
à tous.
Bonjour.
Alors après le char à voile, une polémique de plus pour l'entraîneur du PSG.
Oui, et il y a de la tension dans l'air au cœur de cette nouvelle polémique. Christophe Galtier et Julien Fournet, deux hommes ayant décidé de quitter l'OGC Nice, l'un pour le Paris Saint-Germain, l'autre pour Parme en Italie, un divorce jamais expliqué avant. Mercredi soir, dans l'afterfoot, le directeur sportif allume la mèche.
Les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient, dès le début de la saison d'ailleurs, assez chaotiques. Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi, on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe, il rentrera plus dans un vestiaire ni en France ni en Europe.
Le nouveau coach parisien n'a pas mis longtemps à réagir dès le lendemain en conférence de presse d'avant-match PSG Nice. Pour lui, ses propos visent clairement à le déstabiliser.
Je ne suis pas surpris de la manière dont il s'est exprimé. Quand on est l'entraîneur du Paris Saint-Germain, il a une grande exposition et que je ne peux pas et je ne veux pas me fatiguer, m'épuiser à répondre ou à débattre sur tout ce qui se dit. Sur la forme, je ne suis pas surpris, connaissant le personnage. Et voilà ce que j'ai à vous dire. Vraiment pas surpris du tout.
L'ancien entraîneur des Aiglons, pas étonné, mais directement concerné pour justifier cette rupture. Le journal L'Équipe avance deux pistes. Le mercato de l'été 2021, pas satisfaisant pour le technicien. Et l'année suivante, la mise en place de séances adaptées pour ses joueurs musulmans en pleine période du Ramadan. Galtier aurait essayé de les convaincre de ne pas jeûner. Objectif, selon lui, garder une condition physique optimale à un moment crucial de la saison pour le club.
Merci beaucoup Arthur Perrault pour ces précisions. Évidemment, tu restes avec nous si tu veux ajouter quelque chose. Les polémiques peuvent-elles ruiner la saison du PSG? C'est notre débat, le 32-16. Pour participer, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai un oui, c'est David Douillet, j'arrive dans quelques instants. J'ai trois noms défendus par Christophe Cessieux notamment. Pourquoi non, Christophe?
Que deviendrions-nous?
Ah oui, ça, je suis
sans le Paris Saint-Germain, mon cher JC.
On mettrait les clés sous la porte.
On s'enduirait ferme quand même. Je ne sais pas comment on pourrait encore avoir des sous pour allumer les lumières. Hein, on a quand même un débat par jour sur le Paris Saint-Germain. Et je ne compte pas toutes les émissions de foot parce que là, je pense qu'on arrive à
vivre le PSG.
Mais évidemment, ils nous font vivre le PSG. Oui. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça fait des années que c'est comme ça, qu'il y a des polémiques, des petites histoires, des disputes entre les uns et les autres, des présidents qui sont pas blanc-bleu, des entraîneurs qui font des choses bizarres. Voilà, il y a eu par le passé des petites tensions entre Zlatan avec Cavani, des tensions avec les entraîneurs. Voilà, ça n'a pas empêché le Paris Saint-Germain de remporter tous les titres de champion de France qu'ils ont voulu. Après, c'est vrai que la bagarre entre Mbappé et Neymar peut-être avoir des conséquences un peu plus difficiles pour le PSG parce que c'est quand même le cœur du jeu et c'est le cœur de cette équipe, de l'excellence de cette équipe. Et si les deux ne se supportent plus, et j'ai l'impression que ça en prend quand même le chemin, là, ça pourrait avoir quelques petites conséquences.
Mais un entraîneur déstabilisé comme ça par Julien Fournier,
déstabilisé par Fournier.
Mais il le sait,
Fournier, c'est un filou quand même. Il fait ça. Il y a PSG Nice avant. Ouais. Je trouve ça ridicule.
Non, mais il est plus à Nice.
D'accord. Mais peut-être qu'il a juste envie de foutre le bazar avant ce match-là.
Il a très bien répondu. En tout cas, il a beaucoup de haine vis-à-vis de Galtier. Je ne sais pas exactement. Après, ce qui s'est passé entre les deux. Il faut se rappeler que Galtier est venu à Nice pour Fournier. Quoi, c'est ça qui
compte. Les deux étaient amis. Ils ont
Après Christophe Fournier, moi, il me fait rigoler. Mais si t'as envie d'envoyer la vérité, dis les termes
la vérité, ça y est.
Bah non, on n'en sait rien.
Elle n'est pas vraiment sortie, on n'en sait rien.
Ça reste des suppositions de journalistes. Alors, même s'il y a des journalistes très compétents, moi j'ai envie d'avoir la vraie version. Si jamais elle sort, mais Fournier, il aurait pu dire voilà ce qui s'est passé avec Christophe Galtier, ça. Là, ça aurait pu être une vraie polémique. Moi, à partir du moment où les polémiques restent en dehors du terrain, je ne vois pas en quoi ça poserait problème au Paris Saint-Germain. Christophe l'a très bien dit, ce club vit avec des polémiques, notamment depuis l'arrivée des Qataris. Quand tu deviens un des plus grands clubs européens avec les plus grandes stars dans ton équipe, il faut vivre avec ces polémiques-là, parce que c'est le temps des polémiques, parce que c'est le temps des réseaux. Donc les polémiques, il y en a une par jour, deux, trois par jour, c'est pas un problème. Là où Christophe a raison, c'est que tant que les polémiques s'arrêtent dans les coulisses ou dans le staff ou dans les bureaux de Nasser Al-Khelaïfi, ça posera pas de problème aux sportifs. Le vrai problème qu'il peut y avoir, Christophe a été très bon sur sa prise de parole. Bravo Christophe, je te félicite à 9h05. C'est peut-être la plus belle prise de parole depuis 3
ans. Qu'est-ce qui se passe ce matin?
C'est si jamais il y a des discords sur le terrain, Mbappé et Neymar notamment. Maintenant, j'ai envie de... Moi, je pense qu'on en fait des caisses sur Mbappé et Neymar, qui est des inimitiés entre les deux, qui ne les apprécient pas leur façon de jouer, certes. Moi, pour l'instant, quand je les vois sur le terrain, le Paris Saint-Germain, j'ai pas d'inquiétude sur le niveau sportif. Les stats sont là du côté Neymar, les stats sont là du côté Kylian Mbappé. Oui, je t'aime pas. Oui, ta musique que tu mets dans le vestiaire me plaît pas. Bref, moi, ça m'intéresse pas. Ce que je vois sur le terrain, pour l'instant, ne m'alarme pas et ils continueront à vivre avec ça.
Les polémiques peuvent-elles ruiner la saison du PSG? C'est oui pour David Douillet. David, prends la main.
Ouais, parce que on n'est pas, la question, c'est pas va ruiner, les polémiques vont ruiner la saison du PSG, c'est peuvent-elles. Donc on est dans les expectatives.
Maître Capello.
Je suis content. Non, mais oui, mais Maître Capello, il va t'expliquer des choses puisque tu les as expliquées toi-même. Tu vois, t'as dit non et en réalité tu penses oui. Ah, tu penses comme moi que la divergence entre deux joueurs, eh bien, ça peut faire un début de foyer qui peut gangréner un vestiaire. Tu le sais aussi bien que moi. Deux personnalités qui s'affrontent dans un vestiaire. Après, t'as les gens, quelquefois à la fin, ne savent même plus pourquoi ils sont en désaccord. Ça devient une systémique. Ouais, mais... et puis ça s'engraine. Et puis on parle de musique, de machin, de trucs, de passe, de trucs, de jeu, le truc qu'il a pas connu. Le truc. Voilà. Donc ça peut disloquer une équipe. À cela s'ajoute lorsque la tête du bateau, comme Nasser El Khaïfi, qui peut être engagé dans quelque chose dont on ne connaît pas la limite, avec en toile de fond une Coupe du Monde qui va se passer dans son pays, etc., etc., etc. Là, moi, je pense que le navire PSG peut tanguer, et peut tanguer assez fort, parce que de l'intérieur, dans le vestiaire, il y a déjà des brides de querelles, et puis dans la cabine de pilotage du bateau, eh bien, on peut avoir le grand chef qui peut être attaqué et très certainement attaqué, puisque tous les feux convergent vers le Qatar, voilà. le Qatar. Donc le PSG, c'est aussi le Qatar. Stephen, tu l'as bien expliqué. Ça, pour moi, ça commence à sentir un peu le roussi.
Ok, warning de la part de David.
Alors, moi, ça me fait rigoler, parce qu'on dit depuis que les Qataris sont là. Moi, ça fait 30 ans que je suis supporter du PSG, ça fait 30 ans que je vais au parc, depuis 92.
Ça fait 30 ans que tu payes pas.
Ça fait 30 ans qu'il y a des polémiques. je vais faire un aveu, pas souvent. Je crois pas en payer.
T'as pas besoin de faire cet aveu. Hein.
Dis-moi, j'ai mérité aussi mes places, gratuitement.
Enchaîne.
Et tout le temps, je me souviens, au tout début, en 92, tout ça, il y avait des polémiques entre les joueurs, il y avait des clubs de clans, tout ça, ça a toujours existé. Et j'ai l'impression que le PSG est un club à part, qui n'est pas un club ordinaire, on le sait, mais qui se nourrissent de ça, de ces polémiques. Alors effectivement, aujourd'hui, ça prend un peu plus d'ampleur, parce que le club est dans une autre, comment dire,
galaxie.
Mais là où je te rejoins pas du tout, David, c'est que on parle de joueurs hors normes, on parle de joueurs qui sont dans un autre monde, en fait. Tu me parlerais de joueurs neutres, que de Damien Danger, c'est pas pour les décrédibiliser. Si c'est des joueurs qui sont dans un autre monde, c'est-à-dire c'est des chefs d'entreprise, on parle de, ils sont assez intelligents pour faire la part des choses. Il y a de l'ego, il y a de l'orgueil, surdimensionné, d'accord. T'as connu ça, toi, David, parce que t'as touché les cimes aussi. Mais là, c'est des proportions au niveau de l'oseille, au niveau de la notoriété. C'est pas comparable. Donc je pense que ces garçons, ils passeront le cap. Ils passeront le cap parce qu'ils doivent se servir l'un de l'autre. Et je pense que la seule chose qui va contrarier, le PSG, il me semble, moi, dans la saison, c'est la Coupe du Monde. Parce que la Coupe du Monde, je ne sais pas comment Neymar, Messi ou Mbappé vont revenir sur cette Coupe du Monde. Et c'est là où je m'inquiète le plus.
Ok, mais c'est sur du sportif donc.
C'est sur du sportif. Okay. Le reste, Fournier. Galtier, franchement, Galtier. Il n'en a rien à cirer de ce qu'a dit l'autre. Parce que l'autre, il faut mieux qu'il reste chez lui que plutôt que de dire des choses sans les dire. Franchement, c'est ridicule. Ça passe à la trapinette. Et puis le reste, ouais, le président, il s'expliquera. Mais il faut que le sportif, il restera. Ça ne bougera pas.
Ok, David veut répondre.
Essaye de prendre du recul. Parce que la vérité, c'est que...
Recul, hein.
Non, mais je vais mettre le cadre, je crois, là où il doit être. C'est-à-dire que tu as raison. Depuis des décennies, il y a des problèmes dans les clubs, entre les joueurs, etc. C'est normal. C'est normal, ce sont des caractères, ils ont beaucoup d'ego, etc. Ça, c'est logique. Or, aujourd'hui, on sent que de toutes parts, la Coupe du Monde, le PSG, il y a un amalgame qui est fait entre la Coupe du Monde, le PSG, le Qatar, etc. Et on sent que là, chacun, enfin, tout autour, il y a des gens qui ont chargé les flingues et qui sont prêts à tirer. À tirer sur un club, un pays et une Coupe du Monde. Et tout ça va converger en même temps. C'est pour ça que c'est très différent de ce que tu parles. On n'est pas dans, on n'est pas il y a 10 ans ou 15 ans là. La toile de fond, c'est la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde va cristalliser quelque chose qui va concentrer des rayons vers le PSG qui peuvent le faire cramer, quoi. C'est ça
que je te dis.
Mais bien sûr.
Mais non,
parce qu'ils vont attaquer. Ça va attaquer dans tous les sens. Et ça a déjà commencé.
Oui, mais là, tu
avec un fond, un fond légitime.
Tu parles de la politique, là. C'est un truc politique.
Mais moi, je dis aussi les deux.
Pour rejoindre David, la polémique du char à voile, c'est parce que aussi, c'est le Paris Saint-Germain, c'est le Qatar et c'est l'écologie.
Oui, mais c'était maladroit. Excuse-moi. Il a avoué, Christophe Galtier.
Tu tapes à ta caisse pour une vanne, une vanne qui est moyenne.
On juge pas forcément le fond. On juge ce que ça a généré autour.
Mais tu donnes le bâton pour dire, te faire battre.
Donc vous êtes tous convaincus que au mois de novembre, la Coupe du Monde au Qatar, c'est le PSG qui va prendre.
Oui, vous êtes au paradon là.
Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que il y a suffisamment de choses qui se passent à l'intérieur de ce club parce qu'il est très regardé, etc., etc. Et il y a suffisamment de gens qui veulent que la Coupe du Monde soit un échec, que le PSG est synonyme Qatar deviennent la risée et deviennent la caricature de ce qui se passe autour du monde du foot. En fait,
mais ça, je suis d'accord.
Déjà dans un autre débat, non. Mais sincèrement, il y a toujours eu des problèmes dans toutes les grandes
organisations.
À partir du moment où t'as beaucoup d'argent quelque part, ça crée des jalousies,
mais on est d'accord,
ça crée des crispations, etc.
Non, mais c'est pas obligé que ça rejaillisse sur le sportif. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as une cellule qui est indépendante pour moi et qui est commandée par Christophe Galtier. Et cette cellule-là doit travailler indépendamment.
Mais justement, tu m'as parlé de gens qui étaient autonomes, qui étaient chefs d'entreprise, qui étaient dans une dimension, etc. Tu crois pas que tous les jours, du matin au soir, il y a des gens dans leur entourage, des amis, des journalistes, etc., qui vont leur dire, et la Coupe du Monde, et le Qatar, et les droits de l'homme, et ceci, et le PSG, et le fric, et machin. Et à la fin de la journée, tu dis,
Tu penses vraiment que Messi et Neymar, ils sont impactés parce qu'il y a des gens qui leur disent, et le Qatar,
En tout cas, je l'espère.
Je reprends la main, les copains.
Tu vois, ça les rend plus humains.
Je voudrais remettre juste le curseur sur ce qu'a dit Julien Fournier en fin de semaine. Parce que vous, les sportifs, vous êtes dans un vestiaire et on vous dit que quelqu'un dit, votre coach, franchement, si je vous disais tout ce que je savais, il pourrait plus rentrer dans un vestiaire. Vous, ça vous interpelle pas ou jamais vous allez voir votre coach en disant, il parle de quoi?
Non. Alors, moi, au contraire. Le mec, je chope l'autre et je lui dis, vas-y, dis-nous exactement ce que tu sais.
Oui, donc tu veux savoir.
Oui, mais je vais pas voir le coach. Je vais faire voir le mec qui est en train de dire des âneries ou pas. J'aimerais.
Mais vous avez pas envie d'en savoir un peu plus? Parce que là, on est en suspens, il y a quelque chose qui traîne.
Mais moi, si je suis joueur du Paris Saint-Germain, je dis, c'est pas grave. Il y a toujours deux, trois journalistes qui feront une enquête et on verra, ça sortira un jour ou l'autre.
Je pense
Galtier pour dire, raconte-moi tout.
Qu'est-ce que t'as fait? Je pense même qu'on le saura peut-être un jour, que Galtier a dû forcément parler à ses joueurs.
Je ne suis même pas sûr. Denis, il va pas arriver pour justifier quelque chose dont on ne sait rien.
Donc vous êtes en train de valider la thèse, comme quoi tout ça a quand même une incidence sur le sportif.
Nous emmène pas là où tu vas aller.
Une petite influence, mais les mecs n'ont rien.
C'est comme ça depuis toujours. Tu as l'impression tu sors de ton nid.
C'est pas les bisounours.
Regarde un peu le passé du Paris Saint-Germain.
Mais montre-moi le monde.
Mais non, mais t'es anti. Il arrive comme ça, il débote, il
décolle. Le monde des bisounours.
Il y a des cris de PSG.
Sincèrement, est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour dire que le PSG aujourd'hui, il n'est pas dans la meilleure configuration pour donner le meilleur de lui-même? Je suis désolé.
Je ne sais pas. Je pense que
le PSG n'a pas besoin de crise, n'a pas besoin de l'extérieur pour se mettre le feu tout seul. Il suffit qu'il y ait un quart de finale ou une huitième de finale de Ligue des Champions et paf, la crise, ils se la font tout seul.
Mais David a tout dit. Est-ce que ça a impacté le sportif? Je dis non.
Ok, la preuve,
quand tu les vois jouer,
pour l'instant. Pour l'instant, Denis, mais ça peut l'impacter, c'est ça la question.
Ouais, mais si jamais il y a une passe de moins bien pour le PSG et ça arrive dans tous les grands clubs, il va falloir imputer ça en disant il y a trop de polémique. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses.
Ok, les copains, je vais reprendre.
J'y sais, repose cette question à la fin de la saison et là, on va se marier, tu vas voir.
Écoute, avec grand plaisir. On reposera cette question, on rediffusera cette bande.
Moi, ce que je propose, c'est que tu reposes la question à la fin de Danser avec les Stars. On verra le vainqueur et tu demandes poser la question. Est-ce que
ne
David
me,
Douillet
ne me branche pas là-dessus, Stéphane. Tu sais très bien que Stéphane, c'est pas bien. Je sais que tu rêvais de faire cette émission. Pour moi, c'est un drame absolu d'avoir été éliminé beaucoup trop tôt. J'ai du mal à m'en remettre.
Mais pour de vrai.
C'est difficile pour moi. Tu remues le couteau dans la plaie. C'est pas bien ce que tu fais.
Mais oui, c'est pas bien. C'est une blague. C'est pas une blague. Mais tu sais quand même que c'est un sujet sensible.
Voilà.
Allez, 9h29, on revient dans quelques instants pour la punchline de la semaine signée Wendy Renard, capitaine de l'équipe de France de foot sur l'affaire Diallo Emraoui. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h30, les grandes gueules du sport. RMC, les grandes gueules du sport. 9h30,
Jean-Christophe Drouet.
9h33, de retour dans les grandes gueules du sport avec David Douillet, Christophe Cessieux, Stephen Brun, Denis Charvet. Ce matin, sachez qu'à partir de 10h, Corentin Moutet, joueur de tennis, sera notre invité. Il sera avec nous en studio et il reviendra évidemment sur l'un des événements de la semaine et notamment cette bagarre lors du tournoi d'Orléans. L'équipe de France de football féminine se retrouve et va se retrouver dans quelques jours pour deux matchs amicaux début octobre. Des retrouvailles sur fond d'affaires Diallo Emraoui, deux joueuses qui fréquentaient régulièrement le groupe. Wendy Renard, capitaine des Bleus, s'est exprimée cette semaine dans les colonnes du journal L'Équipe sur cette sombre histoire. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Ces affaires extra-sportives ne sont pas bonnes pour l'image, et ce n'est pas seulement valable pour le foot. C'est dommageable, ça ternit l'image du foot féminin. Mais même dans les séries Netflix, on ne voit pas ça. Je ne veux pas m'immiscer, je veux rester à l'écart de tout ça, mais si tout ce qu'on lit est exact, c'est triste, et une histoire incroyable. On parle peu de foot féminin. Alors si on en parle pour ça, on ne va pas beaucoup avancer. Je ne comprends pas vraiment, et ça fait mal.
Merci, Siri. La question que l'on se pose désormais, vous avez entendu Wendy Renard. L'affaire Diallo Emraoui a-t-elle détruit l'image du foot féminin? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Oui.
Denis Charvet.
Non, pas au point de la détruire. Ça a impacté.
Stéphane Bra.
Je fais tendance à aller sur le oui, Jean-Christophe.
David Douillet.
Malheureusement, oui, je pense que oui.
Stéphane, tu prends la
main. Oui, que veux-tu que je te dise?
Bah, tu réponds la question.
Écoute, moi, ce qui me gêne dans le foot féminin, c'est que j'ai l'impression que ça fait les pleines pages de la presse uniquement quand il y a des problèmes. Moi, je me rappelle de l'épisode équipe de France Corinne Diacre qui était en bisbille avec ses joueuses. Dans cette émission-là, on en a fait pas mal de débats.
Les hommes aussi, ça y va pas mal en ce moment.
Oui, oui. Non, mais moi, la dernière image de sport, de foot féminin que j'ai, où c'était, on parlait que de sport, c'était la Coupe du Monde. C'était la Coupe du Monde qui avait lieu en France. C'était quoi? C'était 2 ans. Depuis, j'ai l'impression que c'est que des histoires extra-sportives. Corinne Diacre et ses joueuses. Mais celle-là, elle est infâme, elle est immonde. Le foot féminin aujourd'hui, en dehors de l'équipe de France, il n'y a pas eu d'évolution. L'AD1 Arkema, je regarde des images parfois à la télé, il y a des stades où c'est le désert absolu. Et le foot féminin.
La Champions League est remplie 30 000 au parc.
En Champions League,
ouais. Mais toi, regarde, il y a 10 ans.
Ouais, mais tu sais quoi ton problème, Denis? C'est que tu t'arrêtes sur le PSG et l'Olympique Lyonnais. Sauf que la DR Arkema, c'est pas deux clubs.
Il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y en avait aucun.
Je te dis que dans tous les autres stades, c'est
non, mais il faut regarder l'évolution. C'est toujours pareil. Tu peux pas critiquer l'évolution d'un sport, c'est comment il a évolué dans le temps. Dans le temps,
tu penses que l'évolution, elle a été fantastique du foot féminin?
Ben oui, bien sûr.
Elle est ultra lente. Ça avance pas. Il y a des déséquilibres de salaire entre les garçons et les femmes. Des déficits de sponsoring, ça avance à deux à l'heure, le foot féminin, Denis.
Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce qu'ils partent beaucoup plus bas que les masculins. Si tu veux les féminins.
Mais normalement, si tu pars de très bas, c'est très facile de monter plus vite. Parce que si t'es déjà en haut, c'est plus compliqué de monter,
les
Denis.
Les ont des beaux salaires, contrairement à ce que tu dis, soit Lyon.
Pas toutes, arrête de te concentrer sur le Lyon et le Paris Saint-Germain, Denis.
Chez les masculins, c'est pareil, il y a des petits salaires, il y a des gros salaires.
Mais ça reste des locomotives, c'est ça que tu veux nous dire.
Bien sûr, c'est des locomotives. Chez les locomotives, pourquoi? Pour l'image. Je suis désolé. Évidemment que
elle est ternie parce que c'est dramatique ce qui s'est passé et qu'on peut pas le cautionner, mais que c'est même, ça dépasse même le cadre.
Mais ce qui est dramatique, c'est surtout tu parles de locomotive, c'est ces affaires-là, c'est oui, dans les locomotives surtout. C'est mais pas moi, dans les
oui, mais la différence, c'est que c'est pas du sport. Ça, c'est hors sport.
C'est pas du sport. Quand tu vas sécher une coéquipière, moi, je trouve que ça fait partie du terrain.
L'image générale de ce sport et l'image générale de ce sport. Je suis chez les filles aujourd'hui.
C'est ça qui est dramatique. On en revient à l'éducation. Le problème, c'est que tu peux pas maîtriser l'éducation de tout individu, tout citoyen. Je suis désolé. Donc, c'est pour moi, on peut parler que de cas à part. Je suis désolé, même si c'est dramatique, même si tout ça est horrible, c'est un cas à part. C'est comme l'histoire de Harding, je me souviens plus comment.
Tony Harding,
c'est exactement la même chose. C'est des problèmes, c'est des problèmes d'hommes, de femmes, c'est des problèmes qui sont extra sportifs pour moi. Après, que ça touche évidemment l'image du football, oui, mais de là à le détruire, non.
Okay.
Non.
Denis, tu pensais pas quand même que justement, en se développant vers le foot féminin, le football allait développer une image un peu différente, une image plus douce, des manières moins violentes, des rapports plus courtois.
Mais oui, je suis d'accord. Mais
on en est où aujourd'hui? Regarde, entre ce qui s'est passé entre la sélectionneuse et ses joueuses, elle les a traitées comme des moins que rien. Aujourd'hui, cette affaire, on apprend aujourd'hui qu'une autre joueuse là aurait mis des coups de poing à l'une de ses coéquipières.
Une amie.
Bah, ouais, elle joue pas au foot avec.
Quand tu vois Wendy Renard, pour moi, c'est quand tu vois.
Et bien sûr. Tu comprends que Wendy Renard, elle est les boules aujourd'hui.
Oui, bien sûr,
parce qu'elle est justement une de ces nanas qui a construit le football féminin en France, qui l'a amené très haut avec des victoires en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, tout le travail qu'elles ont fait est mis à bas par ces petites.
Il faut qu'ils se remettent en question, et notamment au niveau de l'éducation des joueurs.
Et surtout, ce qui est pénalisant, parce que Wendy Renard, dans cette interview, elle a ces phrases-là qu'on a entendues avec Thierry, et elle dit aussi que le foot féminin n'avance pas. Est-ce que tu penses que pour faire grandir le foot féminin, notamment financièrement au niveau du marketing et des sponsors, tu penses que cette image-là renvoyée va inciter des investisseurs et des grandes entreprises à investir dans le foot féminin quand ça s'est passé, Denis? Je suis désolé, ça freine, cette histoire-là,
ce elle
freine
hommes,
et elle dégrade le foot féminin.
Ce qui se passe à la Fédération de la
Fédération. Mais bien sûr que c'est pas chez les hommes.
Mais dans ce cas-là, on peut parler de foot global. Ce foot sport global. En général est en train de partir en vrille.
Ok, David Douillet.
Ouf.
Remets de l'ordre dans la maison.
Relève-toi.
Non, le problème du foot féminin, c'est que aujourd'hui, comme le disait Stephen, ça met longtemps à démarrer. Et puis c'est normal parce qu'il y a un tel arbre qui cache le petit arbuste qui essaye de grandir à côté, que c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'ombre. Et en même temps, quand il y a des mauvaises choses qui se passent, de très très mauvaises choses qui se passent dans ce milieu, d'un seul coup, l'arbre disparaît et c'est la pleine lumière qui arrive, mais la mauvaise lumière. C'est-à-dire que ils ont tous les inconvénients sans avoir beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que là, ils en prennent plein poids parce que c'est hyper médiatisé. Ils bénéficient de l'hyper médiatisation du foot et tout prend des ampleurs incroyables. Alors que ils sont en train de croître tranquillement et se Mais tout ça n'est pas encore, je dirais, je vais lâcher le mot, ça manque de professionnalisme, mais à tous les niveaux, tant dans la structuration des équipes d'entraîneurs, de dirigeants, de cadres, que
malheureusement
chez les joueuses, la preuve. Hein.
Oui, mais tant qu'elle fait la politique, David, c'est quand même un problème à la base d'éducation, je suis désolé. On ne peut pas ne pas soulever ce problème-là,
quand même. T'es un papa comme moi, on a cette chance merveilleuse. L'éducation, qui l'a fait? C'est ceux qui sont au-dessus, tu vois. À un moment donné, quand tu prends des gamines, ou des gamins d'ailleurs, l'éducation est coupée, elle n'est pas là dans les centres de formation, etc., etc., y compris dans des familles compliquées, et puis on en arrive à des débordements qui sont celles de malfrats, de petites frappes, etc. C'est parce qu'il y a un manque d'éducation, mais dès le départ. Je vais te dire un truc très simple. Hein. Un jour, dans le monde du judo, mon DTN de l'époque, qui s'appelait Jean-Luc Rouget, nous a rassemblés sur le tapis, nous a dit, vous savez, nous, en équipe de France, qu'on fait, avant de faire des champions, on fait des femmes et des hommes. C'est-à-dire que nous, le côté éducatif, vos études, c'est prioritaire, tu vois. Et pour et quand tu fais des femmes et des hommes, t'en feras d'autant de meilleurs athlètes parce qu'ils sauront prendre la meilleure décision au bon moment sur le terrain, tu vois. Et c'est ça le problème.
David, Stephen. Alors c'est particulier. Alors je veux pas dénigrer ton sport, le judo, mais le problème c'est que dans le foot aujourd'hui, dans le foot féminin notamment, aujourd'hui il y a beaucoup plus d'argent à se faire que dans le judo. Donc
justement,
le discours qu'a eu ton DTN, il est quand même plausible. Dans le judo en disant
je reviens à une chose là, David, c'est quand
moi,
tu parles
moi, pour moi c'est un problème fédéral, ouais, c'est un problème d'encadrement des gamines, David, des gamines et des gamins, il faut les protéger. La fédération a une valeur de protection, c'est la fédération, c'est papa maman parce qu'on les prend très jeunes.
Est-ce que tu avais l'image de la fédération de foot, David? Est-ce que tu penses qu'elle prend les bonnes valeurs?
Mais non, David, mais bien sûr que non.
On en revient à ce que je te disais, David. Le problème, tu me dis oui, l'éducation c'est le père et la mère, on est d'accord. Sauf que là, on se rend compte que pour certaines, c'est pas le cas. D'accord? Comment on fait? C'est là où je reproche à la fédération de pas mettre en place, mais je sais pas.
Mais c'est ce que je dis.
Une politique qui fait que ces jeunes filles qui arrivent et qui sont pas forcément assez bien éduquées, on va dire, dans le sens des valeurs profondes de nos sports, eh bien, il faut peut-être mettre un système en place. Je sais pas, moi.
C'est assez simple. C'est-à-dire que dans chaque club et au niveau de la fédération, il doit y avoir des personnes dédiées pour contrôler l'éducation, les études de toutes ces gamins et ces gamines.
Formation, leur faire de l'instruction civique.
On n'est pas avec la baguette dans les mains, mais simplement entourer les gamins pour que le manque affectif, parce qu'ils sont retirés assez tôt de chez eux, puisse être géré de la meilleure façon qui soit, et ça en fera des adultes super, vous verrez, c'est sûr.
Ok, on aura toujours des loups solitaires quand même, évidemment, ça arrive partout dans notre société et parfois dans des équipes de foot.
Alors, et là, on a un paquet des loups et des loups dans ce domaine du ballon rond quand même.
C'est vrai.
C'est ça qui est fou. On en parlait il y a 15 jours. Est-ce que le foot vous dégoûte en ce moment? Et ben oui, c'est encore la preuve que
ce sport part en vrille. Hein.
Ce
sport
vraiment
à l'image de notre société, parce qu'avec tout ce qui se passe, ce qu'on a connu, les violences dans les stades, les affaires à la Fédération française, cette affaire-là,
la résurgence du hooliganisme dont on nous parle cette semaine.
Je me posais la question, moi je me disais, t'es père d'une petite fille, qui a 10-15 ans, est-ce que t'as envie d'envoyer au foot aujourd'hui?
La réponse est
non.
Après, okay. Denis, si je peux me permettre, est-ce que t'es père ou mère d'un garçon, d'une fille, t'as envie de l'envoyer au rugby aussi?
Ouais,
oui, bien sûr.
Avec tous les pets
en
casque
qu'il y a. En école de rugby, quand ils sont petits, pour apprendre le collectif. Après, évidemment, quand tu prends les pets à partir de 14-15 ans, il faut les sortir. Ou alors, ils ont la passion pour le truc. Mais non, en revanche, moi, j'ai insisté pour que mes enfants fassent du rugby quand ils étaient gamins et pas du foot. Après, s'ils voulaient faire du foot, ils en ont fait plus tard. Mais voilà,
mais pas quand ils étaient petits.
En tout cas, on m'a toujours dit,
et je finirai là-dessus, on m'a toujours dit qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Si, il y en a quand même, visiblement, la mauvaise publicité, et ça, c'en est pour le foot féminin. Parfait, évidemment. Les copains. On revient dans quelques instants pour le zapping des GG. Beaucoup d'informations à vous donner, notamment l'OM qui prend la tête provisoire de la Ligue 1. Oui, Marseille qui prend la tête.
On s'en fout.
Tu me diras ça dans quelques instants. À partir de 10h, Corentin Moutet sera notre invité, le joueur de tennis professionnel. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet.
9h48, de retour dans les grandes gueules du sport avec David Douillet, Christophe Cessieux, Stephen Brun, Denis Charvet ce matin. Sachez qu'à partir de 10h, Corentin Moutet, qui a eu une chaude altercation cette semaine sur les cours de tennis, sera notre invité. Il pourra s'expliquer, évidemment. Et puis, il nous parlera de cette belle saison avec notamment un magnifique US Open. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est l'OM qui prend la tête de la Ligue 1. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Très bien pour eux.
Ok, mais tu t'en fous.
Ok, content.
Mais tu veux développer.
J'ai pas grand chose à dire. J'ai pas vu le match en
fait. Ok, t'as pas grand chose à dire. Donc, David Douillet.
Ouais, moi, sans intérêt.
Ok, tu passes. Steve.
Moi aussi, je vais passer.
Tu vas passer, Denis, est-ce qu'il passe?
Bah ouais, je passe.
Ok, bon, bah on va pas dévoiler cette information, je suis désolé pour les supporters de l'OM.
On est surtout intéressé par le match de Champions League qui vient, pas pour t'as battu Angers, bravo.
Ok, face au Sporting, évidemment. Ouais. Allez sur rmcsport.fr, c'est pas de l'OM, je suis vraiment désolé. Deuxième information dans le zapping des GG.
Encore accusé d'être anti-Marseille.
Non, mais c'est un résultat de foot, vous voulez pas parler de sport, j'ai aucun problème avec ça. Deuxième information à vous donner.
Et les filles du basket.
Joël Embiid, qui devient aussi américain.
Ah, oui. Ça,
on s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Non, ça m'intéresse.
David Douillet.
Non, ça m'intéresse pas.
Ok, Stephen.
Oui, ça m'intéresse.
Ok, Denis.
Ah oui, oui, ça m'intéresse.
Joël Embiid dispose désormais de 3 nationalités et d'autant de choix de sélection s'il décide un jour de disputer une compétition internationale avec l'un de ses pays. Camerounais de naissance, nous le savons. Le pivot de Philadelphie a obtenu le 5 juillet dernier la nationalité française, alors que les Bleus lui font les yeux doux, notamment dans cette perspective des Jeux Olympiques 2024. Et on apprend ce jeudi donc que le joueur des Sixers est désormais un citoyen américain. Je suis ici depuis longtemps, mon fils est américain, j'avais l'impression de vivre ici et c'est une bénédiction d'être un américain. Alors j'ai dit pourquoi pas. Stephen, il joue à quoi, Joël Embiid?
Il joue à quoi? Moi je prends ça juste comme une démarche administrative. Il arrive aux États-Unis à l'âge de 16 ans, il va sûrement y finir sa vie. Son fils est né là-bas il y a 2 ans, donc moi je pense que c'est juste de l'administratif. C'est beaucoup plus simple et c'est peut-être aussi plus simple fiscalement d'être citoyen américain. Moi je reste persuadé que Joël Embiid, il a pas fait la demande du passeport français juste pour éviter les douanes à Roissy Charles de Gaulle et pour couper la queue. Moi je pense que il va jouer pour la France. Sportivement, ça peut être un peu plus d'intérêt de jouer pour la France parce que taper les Ricains que ça soit à la Coupe du Monde 2023 ou aux Jeux Olympiques, c'est quand même bien plus valorisant que jouer pour Team USA, sachant que cette annonce n'a pas du tout affolé Team USA puisque personne n'a parlé de basket en disant possibilité de jouer avec les Américains. Donc moi je pense que c'est okay. Juste administratif et je ne vois pas une grande inquiétude. Je reste persuadé que Joël Embiid jouera pour les Bleus.
On s'inquiète pas. En plus il va vivre là-bas après
l'Américain.
C'est logique.
Donc on s'inquiète pas, nous Français.
C'est non. Pas plus prestigieux d'aller jouer quand même si t'as la possibilité d'aller jouer dans la sélection américaine.
Les Américains ont gagné sans Joël Embiid. Ouais. Quel est l'intérêt de rejoindre une équipe qui domine déjà le monde?
Non, mais est-ce qu'il serait titulaire?
Il y a pas grande gloire à arriver dans une équipe qui marche.
Faire partie de cette équipe.
Mais je pense que c'est plus prestigieux de taper les Ricains avec la France à Paris, dans une ville où il maîtrise la langue parce qu'il est totalement français. Enfin, la langue française, il la maîtrise totalement. Donc je pense qu'il y a plus de valeur. Connaissant le garçon, je pense que c'est un peu plus dans l'orgueil, dans l'ego, c'est un peu mieux
de taper. S'il refuse de jouer pour l'équipe de France, on peut lui retirer son passeport, c'est fini.
Ah non, je crois qu'il est là.
Il a pris ce passeport uniquement pour jouer avec l'équipe de France, ou alors il y avait d'autres intentions, d'autres motifs.
Je sais qu'il a de la famille en France et que ce passeport lui a été attribué parce que dans les lois, tu peux donner la nationalité française à quelqu'un si il a un talent particulier qui permet de faire briller la nation. Il y a un alinéa spécial pour son talent particulier, oui, c'était pour permettre d'aider l'équipe de France.
Est-ce qu'il serait titulaire avec l'équipe des États-Unis?
Oui.
C'est sûr.
Oui, parce que le poste de pivot est peut-être le poste où il y a moins de monde aux États-Unis.
Il y a quand même parmi les 2 passeports les plus courus au monde, le passeport américain, le passeport français, pas mal, hein.
Ok, deuxième.
Le passeport russe peut-être.
Deuxième information dans le zapping des GG.
On rebondit pas là-dessus.
On n'a pas besoin, on va pas en faire un débat. J'ai la Première Ligue qui envisagerait un All-Star Game. Ok, on s'en fout,
Première Ligue.
Christophe Cessieux.
Non, ça m'intéresse.
Toi t'intéresse. David Douillet.
Non, ça m'intéresse pas.
Oh oui, le air zapping de David.
Je peux en dire un mot.
Tu peux en dire un mot, toi aussi. Ok. Mots. The Times rapporte que la Première Ligue étudie l'intérêt et la possibilité d'organiser un match de type All-Star Game avec la participation des meilleurs joueurs des autres grands championnats européens. Également, le quotidien britannique cite la Bundesliga, la Serie A, la Liga, mais pas la Ligue 1. Néanmoins, il serait tout de même envisagé d'inclure des talents d'autres grands championnats.
Ouais, on peut prendre Mbappé, Neymar éventuellement, mais et Messi, voilà. Les autres, on ne veut pas défendre.
Évidemment, c'est au stade de la réflexion, mais l'idée, c'est de faire un 11 de gala de la Première Ligue contre une sélection de tous ces autres championnats européens. Christophe Cessieux.
Ouais, je trouve l'idée intéressante, rigolote. C'est vrai que de voir toutes les stars de Première Ligue réunies pour affronter un 11 européen, ça aurait de la gueule. Même si, comme tu le disais, ils ont pour l'instant oublié la Ligue 1. Il y en a beaucoup qui disent que la Ligue 1 est le 3e ou 4e championnat européen. On voit que pour l'instant...
C'est faux, ça.
Non, mais il y en a qui, au sein de la Ligue, on essaye de communiquer en disant, voilà, nous sommes l'un des tout meilleurs championnats européens. En fait, ils ont rien à faire du championnat de France, hein, les autres. C'est une idée qui pourrait permettre à ces organisateurs de rentrer un peu plus d'argent. On sait que c'est quand même la chose la plus importante. Non,
bien sûr, ils en ont passé.
Il faudrait voir aussi, moi je pose la question de savoir si transposer la culture américaine, la culture du basket en
oui, ça en Europe, ça marcherait. Parce qu'aux États-Unis, c'est installé de.
Après, l'idée est sympa. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un débat sur le calendrier. Il y a trop de matchs pour les joueurs.
Non, mais c'est de foot.
C'est-à-dire que tu rajoutes un match supplémentaire.
Ridicule.
Un ou des, d'ailleurs. C'est pas précisé, mais ça peut être plusieurs.
Pour moi, pour le bien des joueurs, il faut pas que ça se fasse. Parce qu'on se plaint que les mecs sont blessés, qu'il y a trop de matchs, il n'y a pas assez de repos. On va pas rajouter des trucs juste pour se faire de l'oseille.
Mais je pense qu'on en revient à la culture américaine. Au basket, c'est ancré dans une culture. Tu le regardes parce que ça existe depuis des lustres, mais le football, je pense que le football, ça n'a aucun intérêt.
Et puis, pour quel intérêt? C'est-à-dire que tu vas mettre 11 mecs face à 11 autres mecs, ils vont vouloir vraiment se mettre sur la truffe, se tacler, tout ça, ou ça va être une parodie de football, ou ça va être le match caritatif à Nice avec Pascal Ometa et Denis Charvet.
Pascal, hein,
ça va être du spectacle, et puis ce sont deux joueurs de grand niveau.
C'est pour voir un match de foot qui termine à 17-13.
Justement, c'est pas un match de foot, j'y sais. Il n'y aura pas d'engagement. Donc physique, je m'entends. Si c'est pour voir des grands joueurs sur un terrain, tu les as partout dans le monde.
Faites un concours du milieu de terrain pour toucher la transversale à la rigueur. Je veux bien, tu vois, mais un match.
Mais par là. Ok,
ça
parfait.
Ça devient n'importe quoi.
Allez.
Ah, mais David, il n'était pas parti se coucher, lui.
Non. Parce que 10h45, on refera.
C'est bon, j'ai fini ma sieste.
On refera un autre zapping et je tenterai de trouver une information qui peut intéresser.
Moi, j'ai une information.
Attends, j'y sais, c'est simple.
La semaine dernière,
j'ai une information. David, le retour de la Star Academy. Est-ce que David Douillet
Non, mais moi je pensais qu'on allait lever le débat un petit peu plutôt que de parler des trucs.
C'est pas notre genre.
Tu t'es trompé d'émission.
Non, mais tu sais. Dis-moi, c'est quoi? On parle souvent des points négatifs du foot dans cette émission. Il y a un point positif, on n'a pas parlé, ça me saoule, quoi. Voilà, c'est tout.
C'est quoi le point positif?
C'est le soutien, c'est les footballeurs.
Mais on y va tout à l'heure, il y a un deuxième zapping.
Ouais. Le coup du deuxième zapping, on me l'a fait 20 fois déjà. C'est pas sûr. Donc je préfère en parler maintenant pour être sûr de l'avoir tout à l'heure.
L'équipe iranienne qui a pris fait et cause pour les femmes iraniennes.
Voilà.
C'est dans le zapping.
C'est ça que j'attendais.
C'est à 10h45.
Ça sera pas dans le zapping, c'est dans le zapping.
Eh ben, t'as qu'à être plus clair dans tes messages WhatsApp. Voilà, c'est pas clair.
Coup de passion. J'ai l'impression qu'on est sur un coup de passion.
Oui.
On passe à autre chose. On revient dans quelques instants avec notre invité Corentin Moutet qui viendra notamment s'expliquer sur son altercation cette semaine sur un cours à Orléans. A tout de suite sur RMC.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules du sport.